Donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Francis Rocard du CNES. Donc Francis Rocard a commencé par faire une thèse en astrophysique et il a travaillé sur différentes missions spatiales, Vega pour étudier la comète de Halley notamment, Phobos qui étudiait Mars. Et puis il a rejoint le CNES où il est devenu responsable de l'exploration du système solaire. Et donc à ce titre-là, il est très impliqué dans les missions auxquelles la France participe. Donc, par le biais du CNES, l'agence spatiale française. Donc vous en avez probablement beaucoup entendu parler de beaucoup de ces missions, Mars 96, Mars Express, Cassini-Huygens, Rosetta et Philae et d'autres. Et donc aujourd'hui, enfin ce soir, il va nous présenter une conférence intitulée Curiosity et Mars, donc en nous donnant les dernières nouvelles de Mars observées par le rover Curiosity, s'il vous plaît.
Merci bien. Voilà, donc petite introduction concernant Mars. Ça c'est une image qui a été faite avec Hubble et donc animée. C'est en gros ce que voyaient les astronomes du 19e siècle, à supposer qu'ils aient quand même des instruments bien puissants. Ils voyaient moins bien que ça, mais mon point c'est qu'ils voyaient surtout les variations d'albédo, donc les zones sombres ici ou plus claires ici, mais en fait ils ne voyaient pas les reliefs. En fait, les reliefs, vous ne les voyez pratiquement pas. Un exemple, je crois que c'était l'Olympus Mons qui vient de passer. Et si je la vois moi-même, Valles Marineris, je crois, voilà, est ici. Et ça, c'est les trois volcans de Tarsis. Vous voyez, on les voit à peine. Et ça, c'est le problème de l'observation à distance. Donc, nous, les astronomes et surtout les planétologues, on aime bien aller voir les planètes de près et donc c'est pour ça qu'on est à 97% dépendant du spatial. Il y a quelques planétologues qui travaillent soit par observation ou au laboratoire. Alors, un petit présentation de cette planète qu'on a rapprochée ici de la Terre. Donc, tout ça pour vous dire que cette planète est petite parce que Jupiter a empêché le Mars de grossir. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait disserter là-dessus. Mais le fait qu'elle soit petite, un facteur 2 en diamètre, c'est un facteur 10 en masse exactement. Et donc, la règle veut qu'un corps planétaire, au moment où il se forme, tout ça c'était il y a 4,56 milliards d'années, où il se forme, il y a des éléments radioactifs de courte période, de longue période, et donc il y a une chaleur interne. Et cette chaleur est proportionnelle au volume. Et donc, plus un corps planétaire est gros, plus il va se refroidir lentement. Et Mars étant 10 fois plus petit, à peu près en volume, s'est refroidi beaucoup plus vite que la Terre. Aujourd'hui, la planète Mars est un désert glacé. J'aime pas dire que la température moyenne, c'est environ moins 50 degrés. En fait, c'est une température qui oscille entre 0 le jour et moins 80, moins 90, voire moins 100 la nuit. Voilà, ça, c'est la réalité. Il y a un écart de température absolument considérable. Sur cette image, on voit pas mal de nuages. Mais alors c'est des nuages, ça c'est les volcans de Tarsis, Olympus Mons, c'est des nuages d'altitude, mais en fait il fait toujours beau sur Mars en gros. Il n'y a pratiquement pas de nuages. Ça c'est néanmoins des brumes matinales aussi qui apparaissent sur Mars. Il fait toujours beau sauf quand il y a du vent. Le problème c'est un peu comme quand on est à Toulon, le mauvais temps c'est pas les nuages, c'est le vent. Et je ne sais pas s'il y a des Toulonnais dans la salle, mais c'est ce qu'on m'a dit quand je suis allé à Toulon. Alors, si maintenant on prend la même image, mais à partir d'une construction des images Vikings, donc depuis l'orbite, on n'a pas du tout le même résultat. Voilà, vous voyez que c'est une construction d'image ici qui aboutit à ce globe qui est très connu, avec sa face la plus connue, Valles Marineris, découvert par Mariner 9 en 71, d'où le nom de Valles Mariner. Les trois volcans de Tarsis ici. Et déjà, on voit qu'il y a manifestement une gigantesque vallée de débâcle qui a coulé ici. Et on sait depuis que vous avez des hauts plateaux cratérisés, des plaines au nord, et l'eau a tendance à couler naturellement du sud vers le nord. Et la question de savoir s'il y a eu un océan circumpolaire nord est une question un peu sans fin. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En tout cas, on n'a pas de preuve. Et en tout cas, on n'a aucune preuve que cet océan a perduré longtemps. Ce qui est la condition importante pour la problématique de la vie. Donc, la question de savoir s'il y a de l'eau sur Mars ne se pose plus. Je vais d'ailleurs vous le décrire très rapidement via ces deux grandes catégories d'observation. D'une part, les vallées de débâcle. Donc, ça, c'est une vallée de débâcle Donc des cratères d'impact, tous ces ronds, c'est les cratères, ils ont été fortement érodés, celui-là, il n'y a plus qu'un moignon. Et donc on a une débâcle qui est arrivée en haut à droite, qui a traversé ici, je crois que c'est à Tabascavalès, et l'image est d'une image de Mars Global Surveyor, donc c'est 100 mètres par pixel, non 10 mètres par pixel je crois, et on voit déjà une forte stratification ici, et des formes en gouttes d'eau, et une très très forte érosion. Donc partout où l'eau a coulé, elle a érodé, et on le voit très bien, notamment avec ce type de phénomène, et ce type de phénomène, ça dure 24 heures. Donc c'est extrêmement court, mais c'est très abondant. On a estimé parfois des flots d'eau de 100 mètres de haut sur des kilomètres de large. D'où vient l'eau? Probablement de profondeur, et très certainement par des mécanismes qui restent à bien comprendre. Autre phénomène bien connu depuis Viking, ça c'est une image Viking, c'est ce qu'on appelle les vallées ramifiées. Voilà, ça s'appelle des fleuves asséchés. La particularité, c'est qu'on a un fleuve qui a à peu près, pas tout à fait, les spécialistes disent que ce n'est pas exactement la même chose, ce n'est pas tout à fait la ramification des fleuves terrestres. Et là, vous avez l'embouchure, et ce qui se passe ici, par exemple, on perd la trace de l'eau. C'est-à-dire que quand l'eau est stagnante, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un lac? Est-ce qu'il y a une petite mer intérieure? Est-ce que l'eau existe pendant des durées longues? C'est la grande question qui nous taraude depuis 40 ans, depuis Viking, on va dire. Et finalement, ce type d'observation, ne nous donne pas vraiment le résultat. La source de l'eau, ici, c'est... Il y a aussi de savoir si c'est d'origine pluviale, peut-être, mais aussi certainement venant de l'intérieur, puisqu'on sait qu'il y a énormément de glace d'eau dans le sous-sol. On ne sait pas la quantifier. On a un problème de bilan d'eau. Bon, ça, c'est un autre exemple d'Anédivalis. Un fleuve de la taille de l'Amazone, en termes de largeur. Une zone extrêmement cratérisée et des amorces de bras morts ici et là. Et là, vous avez un fleuve qui est probablement la taille de la Seine, ici. Donc, on a des écoulements à l'échelle du siècle, typiquement du millénaire. Ce n'est pas suffisant pour la problématique de la vie. L'ordre de grandeur, c'est 100 millions d'années. Pour la vie, j'ai posé souvent la question à les biologistes, ils ne savent pas très bien, mais en gros, les ordres de grandeur, il faut plusieurs dizaines de millions d'années, probablement la centaine de millions d'années, en présence d'eau liquide, pour que la vie apparaisse. Et c'est ça la question. Alors, encore une image Viking. Viking, c'était en 76, hein, donc ça date de 40 ans, avec ces points noirs qui étaient faits pour repérer les choses sur les images. Alors, trois cratères, un grand, un moyen, des petits. Un piton central ici, ça c'est assez classique, on retrouve ça un peu partout, y compris sur Pluton récemment. Mais, donc ça, c'est un effet de rebond au moment de l'impact de l'objet. Ce que je veux vous montrer, c'est ce qu'il y a autour de ce cratère. C'est ce qu'on appelle les éjecta lobés, qui ont été interprétés. Il y a une thèse de François Cottard à Orsay qui a étudié ces mécanismes, ces phénomènes de façon systématique. En fait, on pense qu'il y a de la glace dans le sous-sol à une certaine profondeur. Quand l'impact touche la glace, c'est de la boue qui est répandue. Cette boue gèle parce que ces impacts ne sont pas forcément très, très anciens. Mars est déjà un désert glacé. Et ensuite, ça reste immuablement pendant des 1 milliard, voire 2 milliards et demi d'années. Par contre, si le cratère est plus petit, il n'y a pas l'éjecta parce qu'on n'a pas touché ce qu'on appelle le toit du pergélisol. Et donc, la thèse de Cottard a montré que ce toit du pergélisol touche la surface au pôle, c'est assez naturel, mais par contre s'enfonce assez profondément, quelques centaines de mètres, quand on arrive près de l'équateur. Alors, tout ça, c'est de la photo-interprétation, et on m'a souvent posé la question, on pose souvent la question, mais vous dites que c'est de l'eau, mais qu'est-ce que vous en savez? Alors, on a des tas de réponses pour expliquer que ça ne peut pas être autre chose, mais finalement, on n'avait pas de preuves. Et la preuve, elle est arrivée vers 2002, c'est Mars Odyssée en 2001, c'est de la spectroscopie gamma. En fait, c'est du neutron, mais bon, on va dire que c'est à peu près la même chose. Là, on sonde 1 mètre de profondeur. Avec les neutrons, plus il y a de neutrons, moins il y a d'hydrogène, et inversement, moins il y a de neutrons, plus il y a d'hydrogène. Donc, en fait, on sonde l'eau parce qu'on est convaincu que l'hydrogène est dans la molécule H2O. Et qu'est-ce qu'on observe? En fait, on observe qu'il n'y a pratiquement pas d'eau dans les plus ou moins 60 degrés de latitude nord et sud, c'est tout sec, À part peut-être une exception, c'est le M de Meridiani, ça c'est Opportunity qui s'est posé ici, Viking 1, Pathfinder, et là vous avez un G qui est coupé sur mon image, c'est Gusev, qui est également une zone bleue. Ce n'est pas un hasard non plus. Par contre, au-delà de 60 degrés nord et sud, il y a énormément d'eau dans le sous-sol, et ça c'est la carte l'été au nord et l'été au sud, parce qu'évidemment l'hiver, c'est un givre de CO2 qui couvre à peu près justement ces jusqu'aux latitudes de 60 degrés. Vous savez que les calottes polaires, si nous habitions sur Mars, l'hiver, on serait dans la calotte polaire, on aurait du givre de CO2 à l'extérieur pendant tout l'hiver, sur des épaisseurs donc, qui varient en fonction de l'altitude. Mais donc, alors que le terrain ici, si je vous montre une photo de ce terrain et de celui-là, vous ne ferez pas la différence. Mais en fait, ici, il y a énormément d'eau. Alors après, est-ce que cette eau est exploitable pour des missions habitées futures, ça c'est tout un sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que la NASA s'intéresse plutôt aux argiles dont je vais vous parler, et parce qu'exploiter l'eau, c'est extrêmement difficile. En fait, des tas de considérations, plus le fait que c'est extrêmement dur. Si le sol est gelé, ben, il est dur, et comment on fait? Donc c'est pas très simple. Alors, dans les années 2000, il y a eu cette publication qui se reflétait par ce type d'image. Alors on appelle ça des gullies en anglais, des ravines en français. C'est beaucoup plus petit en termes de dimension. On est dans la taille kilométrique, dizaines de mètres de large. Et ce qui a, à l'époque, déjà beaucoup troublé, je me souviens, c'était Mike Carr, qui était un grand planétologue américain, qui disait « j'y comprends rien, mais j'autorise la publication parce que le résultat est là ». Voilà, en gros, c'était ça son argument. Alors que c'est contradictoire avec la thermodynamique. Comment peut-on avoir des écoulements liquides sur Mars avec la pression et la température actuelle qui fait que ce verre d'eau boue instantanément sur Mars. Donc l'eau ne peut pas exister à cause essentiellement de la pression. Néanmoins, ces écoulements sont récents. Récents par exemple parce qu'ils arrivent sur des dunes, et les dunes, ce n'est pas quelque chose qui peut avoir des milliards d'années. Ça peut avoir des millions d'années, peut-être dizaines de millions, mais pas beaucoup plus. Alors depuis, ces ravines ont été beaucoup étudiées, et je vais vous en montrer d'autres. Depuis, on a pu établir que dans le terme ravine, il y a sept types de ravines différentes. Sept, 5 plus 2. Donc, il y a des écoulements secs. Donc, il faut faire attention à ce qu'on montre et à ce qu'on voit, parce que ce n'est pas forcément la même chose. Alors, entre 1999 et 2005, le même cratère, flanc de cratère, et là, il n'y avait rien, et là, il y a quelque chose. Donc, en fait, new deposit. Donc, il y a un dépôt, et ce dépôt, c'est une ravine qui a coulé. Alors depuis, on sait que ces dépôts, c'est du sel. Alors c'est pas forcément du sel de cuisine, mais c'est du sel. Et vous savez que les océans terrestres ne gèlent pas, donc l'eau salée permet d'être liquide à des températures extrêmement basses, ce qui n'est pas le cas de l'eau douce. Et donc, alors vous allez me dire, pourquoi il n'y a pas du sel partout? Tout simplement parce qu'il y a du vent. Et tout ce que vous voyez ici, c'est de la poussière. Et dès que le vent va se lever, la poussière va se soulever et ce malheureux dépôt ici va être couvert. Alors depuis Opportunity et même Spirit, voire même Curiosity, parfois, avec les roues, on soulevait la poussière et on vu des taches blanches, qui étaient des taches de sel. Donc on retrouve un peu le même phénomène. Alors, ça c'est une image qui est déjà ancienne. En fait, elle date de 2011, mais elle a été il y a eu une publication très récente qui date de 2015, ce qu'on appelle les RSL. Recurring Slope Lineae, c'est-à-dire on traduirait ça en français par des écoulements récurrents qui sont fonction de la saison. Donc vous avez une succession d'images, ça c'est la saison qui défile ici, et à une certaine période, c'est la longitude solaire donc, qui correspond à la saison, au moment de l'été et probablement à l'heure aussi où il fait le plus chaud, vous avez toute la montagne qui dégouline. Alors, encore une fois, c'était en 2011. Et depuis, en 2015, il y a eu des analyses par CRISM, qui est un spectro-imageur, qui a montré qu'il y avait des perchlorates dans ce type d'écoulement sombre ici. Et donc, on avait effectivement affaire... Donc, on a de l'eau liquide sur Mars épisodiquement. Et c'est intéressant. Est-ce que c'est très intéressant? Je dirais que c'est anecdotique. Je ne pense pas que ça va révolutionner notre stratégie d'exploration de Mars. Vous savez que depuis Viking, on cherchait la vie vivante à la surface de Mars. Viking a montré qu'il n'y en avait pas. Donc depuis 40 ans, on cherche la vie ancienne, il y a 4 milliards d'années, et des traces de vie au moment où Mars était chaud et humide. Est-ce que là, il y a du vivant dans ce type d'écoulement qui ont lieu typiquement en quelques jours? La réponse est plutôt non. Ça ne veut pas dire que les Américains ne vont pas faire une mission pour voir. Ça vaudrait la peine d'y aller. Hormis le fait que c'est un flanc de montagne, donc c'est compliqué d'accès. Un autre exemple ici, un flanc de cratère qui, là aussi, se met à des couleurs. Quand c'est bien sombre, c'est que c'est un matériau humide. Et ensuite, voilà, là, avec les effets saisonniers dont je parlais. Alors, visiblement, c'est toute la montagne qui suinte. Et en fait, ces sels, ce sont des perchlorates. On sait qu'il y a énormément de chlore sur Mars. C'était déjà un résultat viking, mais on l'avait un peu oublié. Et depuis, les perchlorates ont été retrouvés par Phoenix et posent, vous allez voir, des problèmes pour les mesures actuelles. Alors, un instrument. Qu'est-ce qu'on fait au CNES, nous? Alors, d'abord, sur les 40 missions martiennes, aucune n'est française. Je pense que vous le saviez. Néanmoins, on est présent. On, c'est la France, et le CNES, c'est l'Agence spatiale française. Et qu'est-ce qu'on fait? On finance essentiellement des instruments. Parfois, on fait un peu plus, mais je dirais notre travail sur les missions planétaires, c'est plutôt au niveau des instruments. Parfois, sur Philae, on va un peu au-delà, on fournit des sous-systèmes. Et voilà un instrument financé par le CNES à l'Institut d'astrophysique spatiale. C'est Omega, c'est un spectro-imageur visible et infrarouge. Donc, on fait des images dans le visible et l'infrarouge. Et chaque image est une image cube. C'est-à-dire que vous aviez, c'est du 1000 par 1000, c'est 1 million de pixels. Donc c'est un peu moins en infrarouge. Et chaque pixel de l'image est un spectre. Donc c'est très puissant parce que par rapport à une image visible, voilà typiquement une image visible, c'est la caméra allemande qui a pris cette image de Valles Marineris. Vous avez des patchs clairs. Tout le reste, c'est probablement des basaltes. Donc c'est des roches volcaniques, ça c'est assez universel sur Mars, mais les patchs clairs ici étaient très mystérieux à l'époque et l'image visible ne vous le dit pas. Et avec la spectro-imagerie, eh bien, on a la réponse. Et la première découverte qui date de 2005, Mars Express était en 2003, donc il a fallu 2 ans de travail, voilà typiquement un patch clair, c'est bien stratifié en plus, vu de haut, et les gros pixels d'oméga, en bleu et en rouge, ont détecté du gypse et de la kieserite. Alors c'est des sulfates de calcium hydraté ou sulfate de magnésium hydraté. Le gypse, vous connaissez bien, puisque en fait, c'est du plâtre. Donc, vous chauffez le plâtre, vous le mettez dans des sacs, et ensuite, vous remettez de l'eau, et vous pouvez construire, enfin, en tous les cas, badigeonner des murs. Alors, le sulfate, c'est intéressant, mais il y a une autre découverte qui est la plus intéressante, je pense, de la décennie. En tous les cas, c'est reconnu par les Américains. Bon, alors, si c'est reconnu par les Américains, je pense, et comme ce n'est pas eux qui l'ont fait, on peut penser que c'est vrai. C'est en fait ces taches blanches ici. C'est pour ça que Bibring a rajouté le rover d'ExoMars pour dire c'est là qu'il faut aller. Ce sont les argiles. En fait, vous avez une très très vieille, très très vieux fleuve ici, très ancien. Vous voyez le taux de, on se croirait à Verdun. C'est extrêmement cratérisé. C'est une surface qui a 3,8 milliards d'années. C'est l'une des zones les plus anciennes de Mars. Et toutes ces patches blanches sont des argiles. Et il y a eu toute une bagarre pour savoir si on allait mettre Curiosity sur... Ça s'appelle Mars Vallis, M-A-R-W-T-H. Et malheureusement, bon, Bibring n'a pas gagné, puisqu'on est allé sur Gale, mais ExoMars pourrait aller sur un site un peu similaire. Donc ces argiles, aujourd'hui, c'est la preuve, le smoking gun, que oui, Mars a probablement été chaud et humide, parce que les argiles se sont formées. Et comment on forme des argiles? On prend des basaltes en présence d'eau, et tout ça, ça prend du temps et ça se transforme et on transforme des basaltes en argile. Et les argiles sont en plus des phyllosilicates, ça veut dire que ce sont des feuillets en feuilles. Et le gros intérêt, enfin l'intérêt minéralogique de ces feuillets, c'est que entre deux feuilles, vous pouvez piéger des molécules. C'est bien connu, les minéralogistes le savent. Moi, je suis plutôt un physicien, mais d'où l'intérêt d'aller voir les argiles et d'essayer de voir s'il n'y a pas des molécules organiques piégées dans les feuillets. Et on va y revenir, c'est l'objectif de Curiosity. Alors, ça, c'est la publication de l'époque. En bleu, c'était les sulfates. Il y en a plein dans Valles Marineris. Et en rouge, les argiles. Donc, Mars Vallis était ici. Et il y avait quelques... Les jaunes, on ne va peut-être pas en parler. Et depuis, toute cette équipe de l'IAS a beaucoup, beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, on en a 1200 spots. Donc, c'est sur les points verts qu'il faut aller. C'est sûr. Et c'est sur les points verts qu'on va. L'intégrale des points verts représente 3%. Ça veut dire que si vous vous posez n'importe où sur Mars, vous allez tomber sur des basaltes et vous allez pas, ça n'a aucun intérêt. Donc la zone de Mars-Vallis est ici, et donc Gale, le cratère Gale est ici. Il y a des argiles. Tous les sites, les quatre sites finaux de Curiosity étaient des sites argileux, et donc les missions futures, Mars 2020, ExoMars aussi, tous ces sites se posent sur les argiles, et le but c'est d'essayer de comprendre si la vie est apparue. Alors ça permet de réécrire l'histoire. Donc l'histoire de Mars, tout se crée ici il y a 4,56 milliards d'années. Donc au tout début ça bouillonne énormément, il fait très chaud, mais rapidement ça se refroidit un peu et on a la période d'argile qui est entre 4,5 et 3,9 à peu près, 3,8, enfin bon, on n'est pas très précis dans les âges. Et là, il y a un changement climatique global qui est lié, enfin, est-ce que la corrélation n'est pas complètement évidente, au fait que Mars perd son champ magnétique vers 3,9. Or, 3,9, ça correspond aussi, mais c'est probablement un peu un hasard, à ce qu'on appelle le grand bombardement tardif, donc le late heavy bombardment. Et bon, le résultat, c'est que Mars perd son atmosphère, perd son effet de serre, Mars se refroidit. Il y a une période de transition où on fait des sulfates et le milieu devient beaucoup plus acide. C'est déjà moins favorable à la vie. Et en fait, on a un peu faussé l'échelle du temps parce que cette zone ici est beaucoup plus restreinte que celle-là, puisque là, vous avez 3,5 milliards d'années de désert glacé, qui est le Mars d'aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est la découverte des argiles a permis de réécrire l'histoire. L'histoire ancienne, c'était le Noachien, l'Hespérien, l'Amazonien. Donc les périodes correspondent à peu près, mais à peu près seulement. Alors, ça, c'est un petit cartoon américain, Mars is Hard. Quand la planète Mars réussit à faire échouer une mission, elle gagne un point. Et quand la planète Terre réussit une mission, elle gagne un point. Bon, alors depuis, vous mettez un 16 ici avec Curiosity, c'est à peu près le résultat de l'exploration de Mars, c'est-à-dire 40% de succès. Ce n'est pas beaucoup. La proportion est inversée avec sur Vénus, et tant mieux, mais sur Mars, les échecs sont quand même les plus nombreux. Alors, venons-en à Curiosity. Curiosity, les points jaunes, c'est là où on s'est posé. C'est que les Américains. Il n'y a que les Américains qui sont posés sur Mars. Donc, les Vikings, ici, historiquement, puis Pathfinder, Opportunity qui continue à travailler, qui est au centre de longitude, latitude zéro, Opportunity est à peu près au milieu, et Spirit, qui est décédé depuis déjà quelques années. Et les quatre points blancs, c'était les quatre sites finaux qui a provoqué beaucoup de débats. Donc vous voyez que Mars-Vallis était sélectionné, mais malheureusement pour certains en tout cas, c'est Gale cratère qui a été choisi. Pourquoi ? Parce que dans le cratère Gale, hormis le fait qu'on a une belle montagne, un beau cratère, c'est entre guillemets plus sexy que Mars-Vallis qui est un peu plat, on a surtout pour les géologues une stratification. Et je vais vous la montrer. Et évidemment, ça a été un argument fort de dire avec la stratification, on a une échelle de temps, le plus ancien est en dessous, etc., etc. Donc c'est intéressant. Alors voilà le cratère Gale. Il se situe à la frontière, à la dichotomie entre les hauts plateaux cratérisés et les plaines du nord. Ça, ce sont des volcans. Mais hormis ces volcans, il y a très très peu de cratères ici. Et Tabascavales était par ici, si je ne me trompe pas. Alors ce cratère, il a une particularité assez curieuse et pas bien comprise, c'est qu'en son centre, il a une gigantesque montagne. Mais c'est le seul, les autres n'ont pas forcément de montagne comme ça. Parfois, ils ont un piton central, mais ce n'est pas pareil. Là, on a vraiment affaire à quelque chose de surprenant qui n'est pas qu'on essaye de comprendre. Alors, au point de vue des dimensions, on a environ 6000 mètres entre le point le plus bas et le point le plus haut. Le point le plus haut étant le sommet ici, mais aussi le bord sud et est. Donc, on monte à 1500 mètres par rapport à un niveau de référence zéro. Et on descend à moins 4500 mètres ici. Alors, évidemment, on se pose là où c'est le plus bas. Parce que pour se poser sur Mars, je vais vous le montrer dans un petit film, il faut de l'atmosphère. On n'est pas capable de se poser en haut des montagnes, ça c'est totalement exclu, et on a besoin d'un maximum d'atmosphère, d'où le fait que l'ellipse d'erreur de Curiosity a été positionnée dans la zone bleue, qui est la zone de plus basse altitude. Alors, je vais vous montrer comment on se pose sur Mars, c'est quelque chose que les Américains ont baptisé. Alors d'abord, un petit survol du cratère avant. parce que pour le plaisir des yeux, on va dire. Voilà à quoi il ressemble, avec donc cette montagne au centre et tout le bord du cratère, 150 km de diamètre. Et on va se poser par ici et on devrait voir la dune qui nous embête beaucoup, qui est ici, voilà. Elle est là. Voilà. Donc c'est notre terrain de jeu, on va dire, pour ce rover. Et maintenant, je vais vous montrer un film. Alors, ce film, il faut comprendre, ça se passe au Jet Propulsion Laboratory. Alors, il y a du son, donc peut-être qu'il faudra régler le son plus ou moins fort. Je vais quand même vous expliquer ce qui se passe avant. Ce qui se passe, c'est que tout est automatisé. Tous les gens que vous voyez ne font rien. Ils regardent des écrans. Ils ne peuvent rien faire. Tout a eu lieu 8 minutes lumière avant. Et évidemment, toute la séquence est automatique. Simplement, ils reçoivent de l'information et ils savent qu'à tel moment, ils doivent recevoir une information positive qui dit que telle étape s'est bien passée. Et vous allez voir, c'est ce qui va se passer.
Things are looking good. Coming up on entry. Vehicle reports entry interface.
Alors, il y a du pilotage hypersonique, ça c'est pas très...
We're beginning to feel the atmosphere as we go in here. It is reporting that we are seeing G's on the order of 11, 12 Earth G's.
On a un bouclier qui est asymétrique.
Commercial 2 is starting. We are now getting telemetry from Odyssey.
Là, on
we should have pressure deploy around Mach 1.7.
Vous avez le directeur qui vient ici.
Pressure deploy. We are decelerating. Feechel has separated. We've found the ground. We're down to 90 meters per second at an altitude of 6.5 kilometers descending. Standing by for Batchel separation. We are in powered flight. We're at altitude of 1 kilometer descending. Standing by for Sky Crane. Sky Crane has started.
Single to us, he remains strong.
Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Voilà. Donc c'est de la belle technologie, c'est compliqué, et même ces gens-là qui sont les meilleurs au monde pour faire ce genre de choses sont quand même très tendus. J'étais présent dans une autre salle, mais on était très tendus aussi. Alors là, je vais vous montrer la même scène filmée par la caméra de descente. Là, hop, là,
RIS mode under our tech bombers accelerated and descending. We are at 150 meters per second.
Dynamics phase. Come back again with RIS mode dynamics.
Et voilà la dune de
RIS mode is nominal.
Là, on est sous parachute.
We are at 9 kilometers and 8
degrees active. Valid range.
We're down to 86 meters per second at an altitude of 4. Just start enabled. Standing by for batch all separation.
Signal to Odyssey is still strong.
We are in powered flight.
We're at altitude
of 1 kilometer descending, about 70 meters per second.
Signal to Odyssey remains air.
Down to 50 meters per second, 500 meters in altitude.
Standing by for Sky. Qui va être soulevé par la rétrofusée.
Constant velocity accordion nominal. Altitude error 5.9 meters.
We found a nice flat place. We're coming in ready for Sky Crane. Down to 10 meters per second.
40 meters altitude.
Les roues sont déployées.
Sky crane has started. Descending at about 0.75 meters per second as expected. Expecting bridle cut shortly.
Tango to us, you remain strong.
Tango Delta nominal.
En fait, on est posé, on ne voit pas sur l'image, mais on essaye, on est posé.
Yeah, you feel calm, configure.
Grip is stable.
0.8 meters per second.
Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les 7 minutes de terreur. C'est terrifiant. Effectivement, pour ceux surtout qui ont travaillé sur ce genre de projet, c'est un projet à 2,4 milliards de dollars. Donc, vous imaginez l'enjeu. Alors, un point intéressant, c'est déjà, on a le premier panorama. Donc, on voit le fameux Mont Sharp qui est là. La dune de sable est ici. Ce qui est intéressant, c'est que, et ça, c'est de l'information technologique, on voit les traces des deux rétrofusées qui montrent que c'était très, très stable. Donc, on les voit d'un côté et de l'autre également. Donc, on a les deux spots des rétrofusées qui ont stabilisé le système au moment où il a posé le rover. Donc, ça a vraiment très, très bien marché. Même si, évidemment, c'est quand même quelque chose que l'Europe ne maîtrise pas. Et donc, avec Schiaparelli qui est en route vers Mars sur ExoMars, le but, c'est d'apprendre à se poser sur Mars. Aujourd'hui, l'Europe ne sait pas se poser sur Mars. Et donc, on va apprendre avec un engin qui aura une durée de vie de 4 jours et qui fera pratiquement une science minimale. Alors, voilà un petit peu le paysage. En fait, c'est assez plat, mais vous allez voir que d'abord, le paysage a beaucoup changé. Et par ailleurs, il n'est pas question quand même de piloter les yeux fermés. On a des choses qui peuvent être un peu gênantes. D'ailleurs, ça a été pour moi une forte déception, c'est que je pensais que ce rover allait pouvoir aller plus vite. Et en pratique, il est assez lent, il est presque plus lent qu'Opportunity. Bon, c'est comme ça. Probablement parce que le JPL ne veut pas prendre de risques. Là, vous avez un peu l'échelle des distances entre le pied du rover, donc ici, les dunes qui sont 3-4 km, et puis le début de la montagne, et à l'horizon, on est à 16 km. Le problème, c'est qu'on ne va pas y aller tout droit. Ce n'est pas de chance, parce que ces dunes sont extrêmement longues, et on va les longer pendant 3 ans. Là, vous avez ce point noir, c'est l'équivalent de Curiosity s'il avait été dans les dunes de sulfate. Là, on est au niveau des sulfates. Et voilà, Curiosity aurait la taille de ce point noir ici. Donc, ça vous donne un petit peu la dimension. Les caméras sont assez performantes. D'ailleurs, la caméra la plus performante, je vais vous la montrer tout à l'heure, elle est française, et c'est celle de Kencam. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au début? Donc, on a considéré que toute cette zone était polluée par les rétrofusées. D'ailleurs, ça se voit. Alors, un point important, quand vous voyez du bleu sur les images martiennes, dites-vous, ce sont des fausses couleurs. Le bleu n'existe pas sur Mars, mais avec Photoshop, on fait tout de suite ressortir du bleu. Donc, et on verra souvent du bleu. Donc, ce bleu est faux, mais c'est le moyen d'augmenter les contrastes de couleurs en agissant sur simplement avec Photoshop. Alors, assez rapidement, on va aller sur le point le plus bas, qu'on a appelé Yellowknife Bay, comme une baie et un lac. Et on va démontrer que, voilà, on se met dans cette zone qui est ici, on s'est posé là. Et en fait, toute la thèse, c'est de vérifier qu'il y avait un fleuve et ce qu'on appelle un fan, c'est-à-dire un delta, et que tout ça était une rivière, voire un lac. Et ça a été confirmé via ce type d'image, où on a des galets qui sont formés. À gauche, c'est Mars, à droite, c'est la Terre, une rivière terrestre. Donc là, on a des galets, et on a pu estimer qu'il y avait à peu près de l'eau jusqu'à la hauteur de la hanche, et que tous les cailloux ont été arrondis, comme ça se passe dans les rivières. Alors, c'est intéressant, mais encore une fois, c'est pas suffisant pour la problématique de la vie. Alors, ChemCam, dans la charge utile, vous allez voir que ChemCam est un instrument non pas stratégique, mais tactique. C'est-à-dire que ChemCam est l'instrument le plus utilisé sur Curiosity. On en est assez fiers parce que la sélection était difficile. Et c'est grâce à la technologie de Thales Laser et donc de ce laser qu'on est à bord de Curiosity. Ce n'est pas pour nous faire plaisir qu'ils nous ont sélectionné, mais c'est parce qu'on avait un instrument franco-américain très performant qui n'avait jamais volé sur Mars. Donc le principe, c'est de chercher une cible et de tirer dessus au laser. Alors, voilà typiquement comment ça se passe. Donc, sur Terre, le laser vient de la gauche, donc l'écran est perpendiculaire ici. Sur Terre, ça fait une toute petite, c'est des lasers pulsés, ça fait une étincelle très petite. Et sur Mars, il y a beaucoup moins de pression. En fait, la technologie de l'analyse LIPS est plus efficace à 6 millibars de pression qu'à 1000 millibars, comme sur Terre. Donc, en fait, c'est assez optimisé. Alors, le principe, c'est qu'on envoie une impulsion laser extrêmement intense. Ça va créer un plasma et les atomes sont excités et se désexcitent en rémettant des photons. Et chaque photon a une longueur d'onde qui correspond à un atome. Et on mesure comme ça l'aluminium, le calcium, le silicium, le magnésium, etc., etc. Donc on fait de l'analyse élémentaire et pas minéralogique. Alors un point important ici, c'est qu'on a le carbone qui est une toute petite raie. Et à côté du carbone, la raie d'hydrogène. Il y a écrit hydrogène first shot. Ça, c'est un résultat de ChemCam. C'est qu'en fait, au premier tir, on enlève la poussière et on a un pic d'hydrogène qui apparaît. Mais au deuxième tir, le pic disparaît totalement. Donc en fait, c'était de l'hydrogène. La poussière est hydratée, alors que la poussière, la roche elle-même est relativement déshydratée. Donc à partir de tous ces pics, on remonte à la composition minéralogique des roches et on peut presque faire toute la classification Mendeleïev, à l'exception bien sûr des cases rares qu'on ne peut pas faire puisqu'on ne peut pas les ioniser. Mais vous avez ici ce qui se fait le mieux, c'est ce qui ionise tout le temps, le sodium, le magnésium, le calcium, tout ça, ça ionise très très bien. L'hydrogène est possible. Et puis, dans cette zone, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc, carbone, azote, oxygène, c'est moins bon. Mais on peut même descendre, évidemment, ce genre d'atomes est très peu abondant. Mais donc, c'est quand même une technique extrêmement performante. Voilà à quoi ça ressemble. Le faisceau laser fait un demi-millimètre, mais fait un trou qui avoisine les 3, 4, 5 millimètres, suivant les roches. Voilà une impulsion laser qui vous crée une analyse LIPS. Alors, comme on fait de l'analyse ponctuelle, évidemment, on va faire des analyses en ligne, en carré, en croix, etc. Alors, évidemment, nous, on a demandé, faites-nous CNES. Mais là, on n'a pas eu le droit. NASA non plus. Donc, on ne joue pas à ça. Ils n'ont pas voulu dessiner sur Mars. Mais le but étant de savoir si la roche est tout simplement homogène ou hétérogène. Et quand on tire sur le sol, c'est-à-dire sur cette poussière, voilà l'effet d'un tir sur la poussière. Alors, il y a un autre effet qui est assez intéressant, c'est celui-là. C'est que quand on fait une série de tirs successifs, vous voyez que le faisceau n'est pas complètement stable. Et en fait, ça vient du gradient thermique. Je vous ai dit que la nuit, il faisait moins 100. Le jour, il fait 0. Donc, il y a une énorme élévation de température. Et en fait, c'est simplement le rover qui grandit un peu et qui se contracte et se dilate. Et c'est pour ça que le spot n'est pas complètement stable et ça se joue sur quelques millimètres. Alors, ce laser est très, très utilisé. Là, je vous montre une slide qui a été faite au bout de 2 ans, à peu près 850 sols, c'est-à-dire jours martiens, et on atteint le chiffre fatidique de 200 000 tirs laser. Aujourd'hui, on en est à 300 000. Alors, vous voyez que, par exemple, pendant Noël, on ne travaille pas. On ne travaille pas non plus ici. Pendant la conjonction solaire, on ne travaille pas. Etc. Et là, vous voyez écrit CWL anomalie. Ça, qu'est-ce que c'est que CWL ? C'est ce qu'on a. On a un système autofocus comme dans votre appareil photo. Donc, c'est une petite diode laser qui fait la mise au point automatiquement. Et cette diode laser est tombée en panne. Alors, c'était une catastrophe parce que si on n'est pas au point, le laser n'est pas focalisé et le LIPS ne marche plus. Donc, en fait, il a fallu développer une technologie. Ça a mis quand même 6 mois. Le principe, c'est si vous avez une cible, vous pensez qu'elle est à 2 mètres, mais elle est peut-être à 2 mètres 10, 2 mètres 20, 2 mètres 30, ou 1 mètre 90, 1 mètre 80, vous allez faire des images à 1 mètre 80, 90, 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 20, et le logiciel va regarder l'image qui a le meilleur contraste. Et celle où il y a le meilleur contraste, c'est celle qui est nette, et ça fixe la distance, et on tire avec la focalisation de l'image qui est constante. Le système marche très bien, tant et si bien que probablement pour les missions suivantes, on va probablement pas utiliser la diode. En pratique, on tire à des distances de 2 mètres jusqu'à, ça c'est 2, 4 et 6 mètres. Parfois on dépasse 6 mètres, mais ce n'est pas forcément souhaitable. On est plutôt dans la gamme des 2, 3 mètres. Alors, et on a fait des 1100 cibles aujourd'hui. Donc c'est vraiment un instrument extrêmement utilisé. Voilà, tous les points verts, ce sont les analyses ChemCam. Depuis, il y a une AFB où on était tout à l'heure. Et là, vous voyez que la dune est ici. Et c'est bien notre malheur, c'est qu'on a besoin d'aller au bout de la dune. Et le bout de la dune est au-delà de la photo. Donc en fait, on essaye d'aller au bout de la dune et on fait des analyses de temps en temps. Donc ChemCam est utilisé constamment, alors que Drill and Scoop Location, c'est-à-dire l'instrument SAM, vous en avez 1, 2, 3, 4. Donc les grosses expériences qui prennent 15 jours, 3 semaines sont utilisées beaucoup moins. Alors notamment, ChemCam a permis de mesurer la composition de ces veines de sulfate. Et en fait, je viens de le dire, ce sont des veines de sulfate de calcium. Donc c'est ce qui s'est créé dans une roche. C'est un phénomène assez courant sur Mars. Il y a ce qu'on appelle les chenaux inversés. Et là, en fait, ce n'est pas des chenaux, c'est des veines. Mais en fait, les sulfates sont plus solides que la roche autour. Et comme le vent souffle pendant 2 milliards d'années, ça érode le matériel. Simplement, les sulfates étant plus solides, à la fin, ils sont en relief. C'est pour ça que ces veines de sulfate se retrouvent au milieu de nulle part. Ici, par exemple, tout le matériau autour a disparu. Et il n'y a plus que la veine comme un squelette qui apparaît. Et c'est assez fréquent sur Mars. Ça existe parfois sur Terre, mais ce n'est pas très fréquent. Alors, je vous ai dit que c'est toujours beau sur Mars. Néanmoins, quand il y a du vent, la visibilité est fortement dégradée. Donc là, vous avez les jours qui défilent. Et voilà, là, le vent s'est levé. Ça, c'est le bout du cratère. On est à environ 80 km. Et parfois, la visibilité est très mauvaise. Parfois, elle est très bonne. Donc ça, c'est... je vous ai peut-être vu seul sur Mars, il y a des tempêtes aussi. Même si les effets mécaniques dans le film sont complètement faux. Le seul effet mécanique, c'est de soulever des poussières. Et les poussières, quand je dis poussières, ce n'est pas des grains de sable, c'est plutôt de la taille du talc. Alors là, vous avez un effet en 2 ans. Curiosity était tout propre et petit à petit, il prend la couleur locale. Donc il est recouvert de poussière à peu près partout. Curieusement, pour des raisons que je ne comprends pas, il y a des zones qui sont encore blanches. Mais l'essentiel est quand même bien, bien recouvert de poussière. Alors, c'était le même problème sur Spirit et Opportunity. On pensait que la durée de vie allait être très courte à cause des poussières, mais en fait, il y a des tornades qui passent sur les panneaux solaires et qui nettoient les panneaux solaires. Donc, Opportunity fonctionne sur Mars depuis 10 ans, grâce à ce nettoyage naturel. Alors, un point sur la couleur du ciel. La couleur du ciel est couleur saumonée, pendant toute la journée, à l'exception du coucher de soleil. Donc c'est un peu l'inverse que sur la Terre. Au coucher de soleil, le ciel devient bleu, comme ici. Et ça, c'est en fait la diffusion sur les molécules, comme dans le ciel terrestre, qui fait que l'épaisseur d'atmosphère étant plus importante, eh bien, la composante bleue apparaît au moment du coucher du soleil, alors que cette composante bleue est permanente sur Terre pendant la journée. Par contre, la composante rouge vient des poussières qui fait que le bleu disparaît du soleil et donc le rouge devient dominant. D'où les beaux couchers de soleil sur Hollywood parce que c'est très pollué en poussière. Alors, un autre phénomène assez étonnant qui a été mesuré par Curiosity, c'est la pression quotidienne. Donc ça, c'est le 10e sol, le 11e sol, le 12e. Et vous avez un écart, on est en pascal, donc 700 à 780. Donc on a pratiquement 10% de la pression qui oscille de façon extrêmement répétitive. Même les décrochements ici sont répétitifs. Et en fait, ce phénomène a été assez bien compris. Il existe sur Terre, mais pas au niveau de la surface. En fait, c'est tout simplement ce phénomène-là. C'est qu'au moment où la planète tourne, l'atmosphère est chauffée par le Soleil. Et à ce moment-là, la pression diminue. Alors, ça se passe sur Terre, mais ça se passe à très haute altitude, alors que sur Terre, au sol, il n'y a aucun effet mesurable. Alors, un autre phénomène, mais qui a été bien mesuré par Viking, donc ça, c'est les 10% quotidiens, mais petit à petit, ça augmente. Et en fait, là, c'est un résultat qui est connu depuis Viking. Vous connaissez peut-être ces courbes. C'est pour Viking 1 et Viking 2, les courbes de la pression, cette fois en millibars, donc 7 millibars jusqu'à ici 9, alors que l'autre Viking 2 monte à 10 millibars. Et cette courbe a deux bosses, et le cycle de condensation-sublimation des deux pôles, qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas symétriques, enfin, qui ne sont pas identiques. Donc, la sublimation, que je ne me trompe pas dans mon raisonnement, là, on est où ? On est l'été. Donc, ça, c'est le pôle sud qui sublime, puisqu'on est l'hiver de l'hémisphère nord, et le pôle sud est beaucoup plus abondant en gaz, donc la surpression au moment de l'hiver est plus importante que la sublimation de la calotte nord qui provoque uniquement cette élévation. Alors après, vous avez les tempêtes de poussière, les tempêtes globales qui apparaissent, ça c'est des résultats de Viking, mais qui est un phénomène chaotique qu'on ne comprend pas très bien. Pourquoi il y a des tempêtes globales tous les 5-6 ans sur Mars, alors qu'on est incapable de les prédire. Un autre effet qui avait déjà été mesuré par Pathfinder, c'est qu'on a deux sondes de température. Donc il y en a une qui est simplement un thermomètre, tout simplement, air température. Et ça, c'est un radiomètre qui mesure la température du sol. Et en fait, on s'aperçoit que c'est le sol qui dicte la température. Donc la nuit, le sol descend à moins 90. Et dès qu'il y a le lever du soleil, le sol va devenir plus chaud que l'atmosphère. Et l'atmosphère va lentement être chauffée par le sol, etc. Et le cycle se répète. Donc en fait, c'est typiquement, il y a environ 10-15 degrés d'écart entre la température à vos pieds et la température au niveau de votre tête. Ça, c'est sur Mars, c'est un peu particulier. Alors j'en viens à un autre instrument qui s'appelle SAM, qui est cette véritable usine à gaz, 35 kilos. Donc elle toute seule, cet instrument a occupé la moitié de la charge utile de Curiosity. C'est un instrument ultra simple. Voilà son schéma. Alors, j'ai une version simplifiée du schéma, mais déjà, c'est très compliqué. En gros, c'est un spectromètre de masse avec des colonnes de chromatographie. Donc, les colonnes de chromatographie, je vais vous les remontrer parce que c'est la fourniture française. Donc, c'est six colonnes ici qui sont enroulées, font 30 mètres de long, et on fait passer un gaz dans les colonnes. Et par chromatographie, on sépare les espèces. Il y a six types de colonnes différentes ici. Et c'est le Latmos et le LISA qui ont la grande spécialité. Donc, toutes les colonnes de chromatographie spatiale ont été faites par le LISA. Alors, cet instrument a permis de... Il va falloir corriger les livres de physique. On disait toujours qu'il y avait 95-96% de CO2. Donc, la réponse, c'est 96. Mais on disait toujours que le deuxième gaz, c'était l'azote. Ben, ce n'est pas vrai. Le deuxième gaz, c'est l'argon. Donc, il va falloir changer le Wikipédia et tout et tout. Je crois qu'il est déjà changé. Mais donc on a un peu plus d'argon, 2% d'azote, 1,9, et donc ça donne des mesures extrêmement précises. Et là, on a simplement reniflé l'atmosphère et mesuré la composition du gaz. Alors, un mot sur le méthane. Alors, le méthane, c'est une histoire compliquée, intéressante, mais complexe. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça, c'est CH4LOS. C'est-à-dire que s'il y a du méthane sur Mars, il ne reste pas. Les UV le brisent et s'oxydent et ça fait du CO2. Donc de toute façon, si on trouve du méthane sur Mars, ça veut dire qu'il est apparu dans l'atmosphère très récemment. Ça, c'est un point important. Maintenant, la question est de savoir s'il a été fabriqué très récemment. Peut-être, soit par des réactions de type serpentinisation, c'est-à-dire CO2 plus H2O sur une roche à 2000 degrés fabrique du méthane. Ça, c'est ce qui est ici. Soit, plus intéressant, vous avez des bactéries méthanogènes, celles qui sont dans l'œsophage des vaches. Les vaches rotent, elles ne pètent pas, pour ceux qui ne le savent pas. Mais ça émet du méthane. Pourquoi on n'aurait pas des bactéries en profondeur dans le sous-sol de Mars ? Ce n'est pas du tout impossible. Et ça pourrait produire du méthane. Après, il y a un autre mécanisme qui, je dirais, est un peu moins intéressant du point de vue de l'activité de Mars en sous-sol. C'est le fait que ce méthane avait pu être stocké dans des clatrates, c'est-à-dire des caches d'eau dans lesquelles il y a une molécule de méthane. Et il y a tout un débat de savoir si cette hypothèse-là est vérifiée ou si on a une fabrication. D'où l'intérêt du méthane, vous l'avez compris, parce que soit on a un phénomène géologique actuel, soit on a peut-être des bactéries. Et donc la question du méthane est complexe. D'abord, il y a eu beaucoup d'observations, beaucoup, 4-5. Mais toutes les observations antérieures à celles que je vais vous montrer ont été contestées. On pourra en discuter. PFS s'est contesté. Monsieur Mouma s'est contesté. Et Sam a trouvé du méthane. Voilà. Alors là, vous avez, encore une fois, les jours martiens en sol pendant les deux premières années. En général, il n'y a pas de méthane. Ça, c'est le niveau de bruit. Hein. Quand on est dans le gris, c'est qu'il n'y a pas de méthane. Mais il y a eu deux bouffées de méthane ici, au sol 300. Et pendant deux mois, il y a eu quatre mesures ici qui sont significativement au-dessus du niveau. Alors, après ces mesures-là, ils se sont dit, bon, on va faire une mesure précise, parce qu'il y a tout un protocole très complexe dans SAM qui dit très précise, dit barre d'erreur très faible. Mais voilà, le problème, c'est que patatras, il n'y a plus de méthane. Et depuis, plus rien. Et moi, quand j'interroge les gens de SAM, je leur dis, alors, vous avez toujours du méthane, mais là, non, il n'y en a pas. Donc, finalement, on n'a que ça, pour l'instant, comme méthane. Et ce qu'on peut dire sur cette mesure, c'est qu'on ne peut rien dire. En gros, on ne peut pas en déduire, ça vient de ceci, ça vient de cela. Les corrélations spatiales ou temporelles, ben, on ne les a pas. On ne sait pas d'où ça vient, il n'y a pas de répétitivité saisonnière. Donc, finalement, cette mesure ne fait pas beaucoup avancer. Donc, vous savez qu'ExoMars a des senseurs de méthane à bord, de TGO, donc d'un orbiteur. Donc, il y a deux instruments qui sont spécialement dédiés au méthane, qui vont arriver vers septembre-octobre. Malheureusement, il va y avoir une phase d'aérofreinage. Donc, fin 2017, on va avoir deux instruments, un belge et un russe, et on verra si l'affaire du méthane va se clarifier. Aujourd'hui, je considère que le méthane est une affaire avec un gros point d'interrogation. Alors après, ça, c'était l'atmosphère. Donc, dans le méthane, on avait juste reniflé l'atmosphère. On peut faire mieux, on peut creuser. On utilise, je n'ai pas trouvé l'image, mais en fait, la foreuse est juste derrière cette tourelle qui est au bout du bras. Alors ça, c'est un bijou de technologie. Vous avez différents instruments, un instrument ici, un autre là, et la foreuse est derrière. Là, voilà la foreuse. Donc ça, c'est la foreuse qu'on utilise, ça, c'est des senseurs de contact, et là, c'est vraiment un foret comme votre perceuse à percussion à la maison. C'est la même, sauf qu'on a un aspirateur. Donc au début, il y avait tout un schéma avec une carotte qui était prélevée, finalement, ça a été annulé. Donc, ils ont considéré que c'était beaucoup plus simple de forer et d'aspirer via un ventilateur qui est là. Et toutes ces poussières qui résultent du forage sont analysées par l'instrument SAM et aussi l'instrument Kemin. Voilà typiquement un forêt tout neuf, qui ressemble un peu à un forêt à béton. On pensait que Mars allait être bien dur. En fait, c'est tout mou. C'est extrêmement mou. Ça, c'était un premier test. Et ça fait à peu près ce diamètre. Et voilà le forage important, le premier. Alors déjà, le premier résultat qui est extrêmement important, c'est la couleur. En fait, on n'a pas du tout cette oxydation brune qui est générale sur Mars. Cette couleur est vraiment universelle sur Mars, vous la retrouvez partout. On a un matériau qui n'est manifestement pas oxydé. Et ça, c'est la première fois qu'on forait dans une roche. Alors, on est rentré comme dans du beurre, hein. Ça a été extrêmement rapide. Et après, on a fait des analyses. Donc, il y a eu plusieurs forages qui ont été faits. Là, vous notez les petits points noirs. C'est Kemcam qui a tiré dans le trou. Il a essayé de viser la veine de sulfate, mais non, il l'a raté. Voilà, ça peut arriver. Il espérait taper dans la veine. Il est tapé juste à côté. Mais dans d'autres cas, il y arrive. Donc, c'est quand même pas au millimètre près, mais c'est parfois à quelques millimètres près. Alors, qu'est-ce que ça donne, ces mesures? Qu'est-ce qu'on fait? On prend cette poudre. On la met dans un four et on fait chauffer le four et on analyse, là c'est de la spectrométrie de masse, mais en chromatographie en phase gazeuse c'est pareil, 200, 400, 600, 800 degrés. Au début évidemment on a de l'eau qui sort, c'est pas très surprenant, du CO2 qui proviennent probablement des carbonates. Ce qui est intéressant c'est qu'on a du soufre oxydé et du soufre réduit, H2S, ça c'est la boule puante hein, pour ceux qui s'en souviennent. Et ce qui est également intéressant c'est ce pic de l'eau à 700-800 degrés. Et ça, c'est interprété comme étant lié à des argiles qui relâchent leur eau, parce qu'on peut le calibrer, qui relâche son eau à 700-800 degrés. Donc, on confirme de façon un peu indirecte la présence d'argile. Alors, ça, c'est peut-être le résultat le plus intéressant. Daniel Kunt me disait, bon, quand est-ce que tu auras des résultats à nous proposer? Je lui ai dit, écoute, on n'y est pas, etc. Donc, on a retardé cette conférence. Et finalement, voilà. Donc, ça, ce sont des résultats sur des forages. Enfin, ça, ce n'est pas un forage, mais vous avez trois forages ici. Ils s'appellent John Clark, Cumberland, Confidence. Et on a, je vous montre ici, le chlorobenzène, c'est-à-dire du benzène avec un atome de chlore. Alors, l'atome de chlore, il vient de Mars. Il n'est pas, il vient des perchlorates. Le processus d'extraction par chauffage, c'est le problème des perchlorates. En fait, il faut comprendre que les perchlorates, c'est un peu comme l'eau de Javel. C'est-à-dire que ça vous oxyde tout, ça vous tue les bactéries. Et dès qu'on chauffe des perchlorates, ils vont attaquer n'importe quelle molécule organique. Et le chlore va se retrouver, va réagir avec la molécule organique. C'est pour ça qu'on a du chlore. Mais au départ, probablement, c'était du benzène non chloré. Ce qui est intéressant, alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première découverte de molécules organiques sur Mars, à part le CO2. Mais on n'en a pas beaucoup. On a des picomoles, des 10-12 moles. Donc, à la fois, ce résultat a été très important parce qu'on a, une mesure qui est parfaitement significative. Et finalement, c'est un résultat qui n'a fait aucun bruit dans la communauté scientifique, dans les médias. C'est vraiment passé très inaperçu. Alors qu'aujourd'hui, notre problème, ce n'est plus le problème de l'eau, c'est le problème des molécules organiques. On a besoin de trouver des molécules organiques pour, toujours dans la démarche de rechercher la vie ancienne, pour se convaincre qu'une chimie organique complexe a fonctionné il y a 4 milliards d'années, 3,8, et que la vie a pu apparaître grâce à cette chimie complexe. Alors, ce n'est pas avec du chlore ou du chlorobenzène qu'on va faire tout le job. Aujourd'hui, on n'a que ça. Donc, c'est très préoccupant. Néanmoins, il y a plusieurs explications. D'une part, on n'est pas arrivé aux strates d'argile, celles pour lesquelles on a visé le cratère Gale. Et d'autre part, on le sait depuis longtemps, que les rayonnements cosmiques galactiques, ceux qui sont très énergétiques dans le domaine du milliard d'électronvolts, pénètrent environ sur un mètre. Ça veut dire que si vous avez des molécules organiques dans un mètre d'épaisseur, elles vont être hachées menues par les rayonnements cosmiques pendant 3 milliards d'années. Donc elles vont être détruites. Donc ce n'est pas une grosse surprise que ces molécules n'existent pas. C'est pour cela d'ailleurs qu'ExoMars, en 2018, a un système de forage à 2 mètres. C'est pour aller au-delà des 1 mètre. C'est à cause de cette valeur de 1 mètre qui nous embête qu'on a estimé qu'il fallait aller jusqu'à 2 mètres. On verra ce que ExoMars va trouver. Bon, ça c'est pour vous dire que Kemin, c'est de la diffraction des poudres et que toutes ces raies correspondent à des différents cristaux. Et en fait, on a également... Phyllosilicates sont les argiles, donc on a confirmé la présence d'argile dans John Klein. Mais on n'est pas... comprenez-moi bien, on a un peu d'argile dans un matériau qui n'est pas essentiellement argileux. Là où on veut aller, c'est dans un matériau qui est essentiellement argileux. Donc, on n'a pas atteint, le Graal de la mission. On a croisé quelques météorites métalliques, celles-ci notamment. Les météorites métalliques, l'avantage, c'est qu'on les voit bien, elles sont caractéristiques. Et ça, ce sont des images de ChemCam. Donc ça, c'est la caméra de ChemCam, qui est un tout petit champ, mais qui est plus performante que les caméras qui sont au sommet du rover. C'est pour ça que vous avez ces zones à haute définition ici qui sont liées à la caméra de ChemCam. Alors, quelques selfies de ce rover. Donc voilà, ces selfies, vous les connaissez. Ça, c'est une autre version. Vous avez des versions un peu... On peut commencer à triturer la géométrie, on peut aller encore plus loin en triturant la géométrie, on peut aller au-delà, voilà, sur ce type de géométrie. Après, je ne sais plus très bien ce qui se passe. Donc ça, ça s'appelle la planète de Saint-Exupéry, avec Curiosity. Et on peut faire aussi des selfies par en dessous. Donc là, on a un selfie avec le bas de caisse, et voilà, c'est une autre version du selfie. Donc il y en a comme ça un certain nombre qui ont été faits. Et alors, où en sommes-nous ? Je vais peut-être vous montrer une image suivante qui a été... les commentaires ont été faits par Olivier Ganot, qui est dans l'équipe ChemCam. Voilà, en 2012, on a fait les Yellow Knife Bay, donc ça a duré un an. On s'est posé en août, donc 6 mois à peu près. Et ensuite, décision a été prise de foncer vers les strates d'argile. Donc, c'est ce qui a été fait en 2013. Et en 2014, et puis ensuite, alors là, ils ont commencé à trouver des choses passionnantes, et on a perdu beaucoup de temps. Vous voyez qu'en 2015, on n'a pas parcouru énormément. Alors, il va falloir apprendre un petit peu ce terrain, qui est un peu compliqué. Donc, d'une part, vous avez cette première fin des dunes, et la deuxième fin est ici. Et en fait, il y a une autre zone qui va nous intéresser, ce qu'on appelle les hématites, la ride des hématites, hématite ridge, qui va être ici. Et en fait, l'objectif, il est juste après. On va le voir sur d'autres images. Voilà. Alors, ce qui s'appelait entry point, ben, on y est à peu près. On est là en ce moment. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on est au bout de la dune et on va tourner à gauche et partir vers la montagne. La montagne est ici. Donc tout ça, c'est tout l'objectif, vous avez compris, c'est de contourner la dune. Parce qu'ils ont très très peur de s'enliser dans la dune, donc il n'est pas question d'y aller. Et au-delà, donc entry point se situe à peu près par là, et ensuite on passe entre dans la zone où il y a le moins de sable possible, d'où cet objectif ici. D'ailleurs, la trajectoire jaune, c'est celle qui a effectivement été utilisée. Et ça, c'est pour la fin de l'année. On devrait être vers la fin de l'année ici. Alors ça, c'est la planche qui a défendu l'extended mission, c'est-à-dire la mission étendue. Donc, je ne sais pas si vous y retrouvez. Donc, la fin de la dune est là. On est à peu près ici. Je vais vous montrer les images de la dune. On a mis ses pieds dessus. Donc, le passage où il n'y a plus de sable, il est là. Et ensuite, on va attaquer la ride d'hématite, qui est ici. Alors, on va commencer à grimper pas mal. Donc, c'est pour ça qu'on fait des S, parce que sinon, c'est trop violent, la grimpette. Et derrière, vous avez... voilà, les fameuses argiles sont ici. Et derrière les argiles, vous avez les sulfates. Donc, encore une fois, c'est la stratification qui nous intéresse. Voilà, vous reconnaissez la ride, le passage, et on monte ici. Ça, ce sont les argiles en vert. Et ensuite, on va partir vers ici pour atteindre les sulfates. Et normalement, la mission va se terminer. Ça veut dire qu'on est au pied de la montagne. Le début de la montagne, en fait, c'est tout ça. Je vous la montrerai tout à l'heure, mais il n'est pas question de... On a mis déjà 6 ans pour atteindre ça. Alors, en termes de dénivellation, là, vous avez une coupe, donc toujours de la zone en question. Le passage est là. Et voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc, il va falloir monter quand même 200 mètres pour atteindre la hématite ridge qui est ici. Donc, après, il y a des problèmes de glissement, de dérapage. En ce moment, c'est Opportunity qui essaye de grimper une pente et qui dérape beaucoup. Alors, vu depuis le rover, voilà à quoi ça ressemble. Donc, première dune ici, la deuxième est là, derrière l'hématite. Et en fait, juste après, vous avez, tout ça se confond, vous avez les argiles, les sulfates. Alors, les sulfates, ce sont les grosses collines ici. Et tout en haut, vous avez en fait des dépôts éoliens, donc qui n'ont rien à voir avec les dépôts plus anciens dont je viens de parler. Mais on a un petit problème. Le petit problème, c'est que les roues. Et ça, je peux vous dire que le JPL est extrêmement vexé parce qu'on a un problème de roues. Alors là, vous avez le JPL voulait écrire JPL sur Mars, mais la NASA a dit interdit. Donc, ils ont écrit ça en morse. Donc, vous avez ça, c'est en morse, JPL, pour ceux qui se souviennent de morse, JPL. Donc, ces trous-là, c'est normal. Il ne faut pas les confondre avec les autres. Et petit à petit, donc ça, c'est le début de la mission. Et là, on a encore donc le morse. Hein. Et là, et voilà ce qui se passe. Donc là, on commence à avoir... Donc, vous avez une tôle et des rides. Et c'est la tôle qui se déchire. Donc voilà, ici la tôle se déchire. Et ce qui fait très peur, c'est si ce morceau de tôle vient sectionner le câble qui est là, qui alimente le moteur. À ce moment-là, ça veut dire que la roue ne va plus pouvoir être alimentée. Donc ça fait très peur. Alors pourquoi ça se produit comme ça? La raison, c'est un petit peu représenté par cette image. C'est que sur Mars, donc Curiosity fait une tonne sur Terre, donc il y a la gravité qui joue. En gros, une roue, c'est 50 kg. Donc vous pouvez avoir 50 kg sur... quelques centimètres carrés. Et ben cette tôle, vous voyez qu'elle est bien déformée. Alors pourquoi les tôles sont légères? C'est tout simplement parce que d'abord il faut faire le plus léger possible dans le spatial, ça c'est évident, mais aussi parce qu'on déploie des roues de façon assez violente et on pouvait pas se permettre d'avoir des roues trop lourdes. Donc ils avaient allégé beaucoup les roues au point que alors maintenant pourquoi le sol est extrêmement abrasif? Il y a une raison simple, c'est que si par le plus grand des hasards... Bon, ça ne marche pas. Si par le plus grand des hasards, un caillou se pose comme ça sur Mars un jour, 1 milliard d'années plus tard, il n'aura pas bougé. Le vent ne le fera pas tomber. Par contre, si Curiosity arrive, lui, il va se prendre une pointe sur sa roue. Alors que sur Terre, tous les cailloux vont se coucher. dès qu'il y a un peu de vent, dès qu'il y a de l'eau. Et il y a des zones sur Mars où on voit des cailloux pointer vers le haut. Et donc c'est extrêmement agressif sur les roues. Voilà, là, vous avez quand même des déchirures importantes. Alors, le résultat, c'est que c'est un consommable, la roue. Et aujourd'hui, le consommable, les estimations... D'abord, les chemins qui ont été choisis en fonction de la quantité de poussière pour avoir un sol pas trop méchant, ce qui a malheureusement nécessité des allongements de parcours. Et aujourd'hui, il n'y a pas de risque que les roues s'effondrent. Alors, il y a même des passagers clandestins, puisque là, dans JPL, là, c'est un tas et ça, c'est un tee, eh bien, il y a un caillou qui s'est coincé. Voilà, et là, c'est l'image plus récente. Donc, c'est quand même... Alors, par chance, les nervures, elles sont encore solides, donc ça devrait tenir. Voilà, en gros, la conclusion, c'est que ça devrait tenir. Alors, je vais terminer pour vous montrer un petit peu des paysages récents. Voilà les vues de Curiosity. Là, vous avez encore une image. Alors, ça, cette image est assez étonnante. Quand on voit ce type de linéation courbe, c'est la preuve que ce n'est pas de l'eau qui fait ce type de phénomène. Ça, c'est l'érosion par le vent qui vous donne ces choses bien courbes. Donc, le vent a un effet extrêmement fort dans l'érosion. Et toute la question de la sédimentation sur Mars, c'est est-ce que c'est de la sédimentation et de l'érosion par le vent ou par l'eau ? Donc, le débat est permanent entre, à l'inverse, ce type de roches tabulaires sont des sédimentations liées à l'eau. Donc, ça, c'est la preuve qu'il y a eu un lac et qui a laissé des sédiments se indurer et devenir des roches sédimentaires comme celle-là. Alors, il y a des artefacts, on en trouve pas mal sur Internet, hein, vous savez, les extraterrestres, il y en a partout. Donc, il y a notamment cet artefact qui a été identifié. Alors, c'est assez mystérieux. Il est probable que ce soit un rayonnement cosmique sur le détecteur, qui a allumé le détecteur au moment où on a pris la photo. Ou alors une météorite qui aurait réfléchi le soleil. On n'a pas d'autre explication aujourd'hui. C'est un cas unique. Quand on refait l'image, on n'a pas retrouvé le... Alors après, évidemment, les civilisations extraterrestres ne sont pas loin et ils ont laissé leurs outils et ils ont laissé leurs cuillères. Voilà. Donc là, vous avez une très belle cuillère. Et elle est vraiment en porte-à-faux, hein, c'est-à-dire qu'elle est fixée ici et vous avez une très longue cuillère avec son ombre en dessous. Alors je peux vous dire que ça y va sur Internet. Hein. Quand on voit ce genre de choses, moi, on m'a envoyé une photo un jour, c'était un téléphone portable. Je peux vous la sortir si vous la voulez, je l'ai là. C'est étonnant, le type m'a dit, mais si, c'est une civilisation qui... Ils étaient là, ils ont laissé leur téléphone portable. Donc là, ils ont laissé la cuillère, et comme quoi le vent fait des choses assez étonnantes. Et voilà. Et finalement, on arrive aux dunes de sable. Alors, moi, quand j'ai vu cette image, je me suis dit, bon, ben, ça n'a pas l'air trop s'enfoncer. Néanmoins, ils sont très prudents. Hein. Il y a eu des enlisements sur Mars, donc ils ne vont pas jouer à traverser... dans les dunes, parce que s'enliser, c'est trop bête. Voilà à quoi ressemble le sable vu de près. Alors, c'est du sable, cette fois. C'est-à-dire que si le vent souffle très fort, ça ne part pas dans l'atmosphère. C'est des grains qui font 100 microns, voire 1 millimètre. Ça n'a rien à voir avec la poussière qui fait plutôt 10 microns. C'est elle qui part dans l'atmosphère. Donc, poussière, c'est tout petit. Et sable, alors, le sable, ça roule et ça fait des dunes. Alors, voilà typiquement la dune du côté, je ne sais pas comment le qualifier, du côté du vent, c'est-à-dire que le vent crée ses rides sur la dune. Là, on arrive au sommet de la dune, là-haut. Donc ça, c'est... toutes ces ondelettes sont créées par le vent. Et si maintenant, on regarde la dune de l'autre côté, c'est-à-dire là où la Barkhane est abrupte, ça, là, on est sous le vent, donc le sable a tendance à passer par-dessus. Et vous avez des effondrements de sable, ici. Et voilà, un bel effondrement triangulaire, là. Et des zones qui ont glissé. Et c'est comme ça que les dunes avancent. Et on a pu mesurer avec IRIS que, en prenant des photos de dunes, pas celle-là en l'occurrence, mais d'autres, à l'échelle de 2, 4, 6 ans, qu'effectivement, les dunes avancent parfois de l'ordre de quelques mètres dans l'année. Toutes ne sont pas actives, mais il y a des dunes actives. Alors, c'est du sable bien, bien volcanique, bien sombre, comme, comme dans certaines îles. Alors, ça, c'est pour montrer les équipes. Donc, on a eu la chance d'être sélectionnés avec MCAM et SAM. Et par la suite, le Jet Propulsion Laboratory, qui pilote le rover en Californie, nous a demandé de piloter en alternance avec un laboratoire à Los Alamos l'instrument KEMCAM. Donc on a dit OK, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il faut mettre sur pied une salle d'opération. Et là, on se focalise sur KEMCAM. Hein, vous avez bien compris, ce n'est pas nous qui pilotons le rover. Mais alors ça se passe de 17h à 3h du matin, avec environ 10 réunions dans la soirée, téléphoniques le plus souvent. Certaines durent 12 minutes, d'autres durent 5 minutes. Vous avez tous les responsables d'instruments qui sont au téléphone ou leurs représentants pour savoir si l'instrument est green, c'est-à-dire OK, ou s'il est red, ça veut dire qu'il est en panne. Et donc, il y a 200 personnes qui se coordonnent tous les jours pour opérer. C'est toute une machine extrêmement contraignante. Et voilà les opérateurs en train de travailler. Il n'y a que des hommes ici, mais je vous rassure, il y a des femmes. Vous avez ici Muel Sacocho, qui était le chef de projet du développement de KEMCAM, et Violaine Sauter, qui vient de recevoir la médaille d'argent du CNRS pour ses travaux dérivés de KEMCAM, et notamment de la détection grâce à KEMCAM d'une croûte d'origine continentale sur Mars. Donc, un résultat important. Et pour terminer, je vais vous montrer un survol du cratère Gale, parce que je trouve qu'il est, il est très beau. Alors, il est commenté par M. Grotzinger, qui était le project scientist.
I'm John Grotzinger, the project scientist for Mars Science Laboratory, the Curiosity rover, and we're going to take Curiosity to our chosen landing site in Gale Crater, which sits at the border between the southern highlands of Mars and the northern lowlands. A really exciting spot because it's very low, and that's the kind of place where water might have pooled and possibly formed lakes. So here we see a different view of Gale Crater that has a different perspective. You can see our landing ellipse down at the bottom there, which is the white circle. And in the middle of Gale Crater is this mountain of rock that is 5 kilometers high, made layer by layer by layer. But the layers at the bottom are the ones that we're most interested in because we think that those were deposited in an aqueous environment, which is very important for understanding habitability. What you can see here now is that we're about to land very close to the center of the landing ellipse, and we have a couple of different routes that we can take. The scientists on the team prefer the one on the right, and so what we would do is drive along it. And now you can see at the base of this mountain where these lower layers are. And the layers are important because they allow us to sort of read a geological book. You start at the bottom of the mountain, and those are the oldest layers, and then the layers that occur up near the top, those are the youngest parts, the youngest chapters in the book. We will drive along up to this outcrop that we call the fence, and when we get there, we're going to study it. It's a really attractive spot for us because it contains the kind of minerals that formed in water, and then when we're done with that, we're going to go beyond, and we're going to enter a canyon, and this kind of terrain around here reminds us a lot of Sedona, Arizona. And all the rocks around here formed in aqueous environments, and so there's a lot of rock, hundreds of meters of it, layer after layer that we can study to tell us about the history of Mars at Gale Crater. Now we cross a boundary and we go into a very different type of rock. You can see how it weathers very differently. It's really rugged. So at that point in the mission, we'll be beyond our initial mission of 2 Earth years. This will take us into many years afterwards of exploration as we drive around this very rugged terrain. If we make it, we'll be able to look back over the area that we have previously studied, back down in towards the bottom of Gale Crater, back towards our landing ellipse.
Voilà, bah, écoutez, j'ai quasiment terminé. Je peux répondre à vos questions. Je vais vous passer un petit film de très belles images de Mars, tiré d'un livre que j'ai moi-même édité grâce à un éditeur qui aime beaucoup ces images. Et voilà, maintenant je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez.
Pour les futures missions des rovers tant américaines qu'européennes, est-ce qu'on va tenir compte de l'usure des roues de Curiosity?
Ah bah oui. Non, je peux vous dire que JPL était très très vexé de cette histoire. Donc, ils ont dû dépenser, comme ça se passe aux États-Unis, peut-être des millions de dollars. Vous connaissez l'histoire du stylo. La NASA a dépensé 1 million de dollars pour fabriquer un stylo qui fonctionne dans l'espace. Les Russes, ils utilisent un crayon à mine. Voilà. C'est deux approches différentes du spatial. Mais oui, la réponse, c'est qu'ils vont évidemment faire en sorte d'avoir des roues qui tiennent mieux que celles-là. Tout en étant légères, hein, ce qui est un problème compliqué. Oui.
Merci. À l'allure de sénateur à laquelle on va, quand atteindra-t-on les strates intéressantes du Mont Sharp ?
Alors, bon, le problème, c'est que jusqu'à maintenant, ils se sont
trompés. Si on veut les atteindre.
Si on veut, ça, c'est pas si on veut, c'est on doit. Je veux dire, on a été envoyé pour aller voir les strates d'argile, il faut y aller. Tant que le rover est en marche, l'objectif... vous savez, la NASA est très, très précise. Hein. Vous avez un objectif à atteindre, c'est votre job, vous devez le faire. Donc, la réponse, c'est que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas tenu leur objectif, mais quand je pose la question, on me répond à la fin de la deuxième mission étendue, c'est-à-dire fin 2018. On est encore 2 ans. Voilà. J'en sais rien, il y a environ 5 km à faire. Tout dépend. Le problème, vous l'avez compris, soit ils s'amusent, ils font des analyses, soit ils avancent. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas faire les deux. Et c'est ça, vous avez vu qu'ils ont réussi à faire 7-8 km en un an, en 2013 et en 2014, parce qu'ils ont peu analysé. Puis en 2015, ils se sont mis à analyser beaucoup. Donc, ils ont fait 3 km. Voilà, c'est ça le problème. C'est le compromis entre déplacement et analyse.
D'autres commentaires ou questions ? Oui ?
Oui, merci pour tout ça, bien sûr. Je reviens sur le benzène. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? D'où il sort ? D'où il peut provenir ? Quelles sont les idées là-dessus ?
Ben ça, c'est une excellente question. Je n'ai pas vraiment de réponse. Aujourd'hui, on a quand même un gros problème, c'est que tout le carbone est oxydé en CO2. Et notre Graal, c'est de trouver les molécules organiques. Bon, on trouve du benzène. C'est déjà quelque chose. On a trouvé du méthane, probablement. On trouve du benzène. C'est un peu léger, je dirais, pour la chimie organique complexe qui fabrique le vivant. C'est pas assez. Mais encore une fois, on n'a pas terminé. J'espère qu'on va trouver d'autres choses. Mais c'est un passage un petit peu obligé pour se convaincre qu'une vie a existé il y a 4 milliards d'années et que cette chimie a fabriqué le vivant. On en est là, mais je ne peux pas vous expliquer d'où vient le benzène. Tant qu'on n'a pas, je dirais, aujourd'hui, on a une mesure d'une molécule, peut-être deux, c'est un peu pauvre pour commencer à faire une analyse détaillée.
Ça peut être une météorite ?
Non, non, non. Dans le cas du méthane, l'hypothèse de la comète a été évoquée, mais... on aurait des signes, d'autres signes que la présence de méthane. On aurait d'autres preuves. On l'aurait probablement vu. Si une comète avait percuté Mars, on l'aurait su. La vitesse de disparition du méthane est d'environ 3 siècles. Alors vous allez me dire, il y a 3 siècles, on ne regardait pas. Mais j'en ai pas parlé ici parce que je me suis focalisé sur Curiosity, mais quand M. Mouma détecte du méthane sur Syrtis Major sur Mars, il en trouve une fois. Et il trouve une grosse tache de méthane, on va dire que ça fait 500 km de diamètre. On a un spécialiste en France des atmosphères planétaires, il s'appelle François Forget, il travaille au laboratoire de météorologie dynamique. Et il a dit, ah bon, il a trouvé ça ? Combien 10 ppb en volume, donc des parties par milliard en volume, c'est pas beaucoup. Ok, je mets dans mon modèle 10 ppb de méthane, là où il l'a trouvé, 500 km, et je fais tourner la machine atmosphérique. Instantanément, le méthane disparaît. Tout simplement parce qu'il y a du vent. Donc la concentration de méthane se dilue instantanément. Donc c'est pour, si vous posiez la question à Forger, il n'y croit pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour mesurer le méthane depuis la Terre, il faut soustraire le méthane terrestre. Et on fait les deux restes sont confondus, sauf quand il y a un effet Doppler, le méthane terrestre se décale par rapport au méthane martien, la raie du méthane. Et simplement, la raie du méthane terrestre, elle est 100 000 fois plus importante. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un pied et un problème de soustraction qui fait que la mesure est fausse? Il y a pas mal de gens qui le pensent. C'est pour ça que je dis que la question du méthane n'est pas du tout aujourd'hui une question tranchée. Mais elle est d'actualité au sens où on cherche toujours. Madame.
Un sismographe à destination de Mars. Vous en avez entendu parler ?
Un peu. J'étais en réunion aujourd'hui même sur le sujet. L'équipe, donc, c'est un sismomètre, c'est Philippe Lognonnet de l'Institut de physique du globe qui est le responsable scientifique. Alors là, on est sur une mission de la classe Discovery. Alors il se trouve que dans ces missions-là, qui sont des petites missions, 600 millions par rapport à 2,4 milliards, il y a un scientifique américain qui est responsable de tout. Tout, ça veut dire qu'on va lui donner 600 millions de dollars, on va lui dire, faites la mission. Alors, il a le GPL à côté de lui, hein, quand même. Mais donc, ce monsieur qui s'appelle Bruce Bannert est allé voir Philippe Lognonnet en disant, bon, est-ce que tu ne veux pas mettre ton sismo français sur la mission américaine? Alors, tout ça s'est fait avec des discussions, et on a dit oui, nous, le CNES, puisque nous, on devait financer le sismo. Ça fait 20 ans qu'on veut mettre un sismo sur Mars ou la Lune. Et donc là, on a une opportunité qui est extraordinaire. Le problème, c'est qu'on a raté la date de tir. La date de tir, c'était mars 2016. Pourquoi on l'a raté? Parce que cet instrument est très difficile à mettre au point et on avait un problème de sphère sous vide qui était bien sous vide. Mais comme je vous dis que sur Mars, il fait très froid. Donc, quand la sphère plonge à moins 100 degrés, bah, tout d'un coup, elle fuit. Et ça, c'était compliqué à traiter parce que, justement, elle fuit à basse température. Conclusion, bah, on a obligé les Américains à retarder de 2 ans la mission. Ça n'a pas été quelque chose de très facile. Monsieur Bolden, l'administrateur de la NASA, n'était pas content du tout. Surtout que l'effet financier pour eux, c'est plutôt 150 millions de dollars, à peu près. Hein. Et la règle du jeu, c'est que ce n'est pas nous qui payons. Et chacun paye sa partie. Nous, on va avoir un surcoût pour le sismo, mais pour la mission, c'est les Américains. Donc ça grogne un peu dans la communauté scientifique américaine, qui trouve que quand même les Français n'ont pas été très bien. Voilà, c'est les aléas du spatial, je dirais. Donc quand ce sismo sera sur Mars, donc ça sera fin 2018, j'espère que tout ça sera oublié et que surtout il marchera bien. Puisqu'aujourd'hui, on n'a jamais mesuré les tremblements de Mars. Donc le but, c'est d'avoir toute la structure interne de la planète.
Peut-être une dernière intervention, quelque part dans la salle.
Voilà des très belles gulises qui n'ont rien à voir avec les précédentes, par exemple. Ça, c'est des blocs de CO2, des boules qui dévalent des collines de sable. Et voilà.
Oui, bonsoir. En fait, on ne se rend pas bien compte sur les images, mais il fait quelle taille le rover? Par rapport aux autres aussi, par rapport aux anciennes missions?
C'est de la taille d'une automobile, à peu près. 3 mètres de long, pas une grosse automobile, mais on l'a comparé à, je ne sais plus, une grosse...
Pour aller au palais de la découverte.
Oui, il fait à peu près 3 mètres de long, presque autant de large, un peu comme les Hummers. Comme l'engin qui le met sur Mars est circulaire, le rover peut être carré, donc il est très très large, puis ça évite de basculer. Et donc on a un mât qui monte à 2,50 m de haut. Voilà. Donc, c'est le tout dans une tonne. C'est une grosse bête.
Eh bien, je vous propose d'arrêter là pour ce soir. Donc, merci beaucoup.